Bonjour Willy Denze.
Bonjour Elodie.
Vous avez été repéré dans l'émission Graines de Star en 2000.
Exactement.
Avec le titre Que vous dire. Vous êtes ce chanteur qui a marqué toute une génération avec les tubes Le mur du son en 2003, L'orphelin en 2004 et Si tu n'existais pas, la reprise effectivement de Joe Dassin en 2005. La suite a été plus opaque pour le public et même si vous apparaissez moins sur nos écrans, en télé, en radio, vous n'avez jamais cessé de faire de la musique, Willy, de monter vos structures aussi pour conserver votre indépendance. Votre dernier single Déjà Vu est sorti d'ailleurs en 2025. Vous êtes au cœur et l'une des têtes d'affiche du grand concert live événement R&B Legacy, un hommage aux icônes R&B des années 2000 organisé au Dôme de Paris. Ce sera le 20 mars prochain avec 30 autres artistes comme Yannick qui va d'ailleurs être maître de cérémonie. Il y aura Matt Houston, Marc-Antoine, Amine, Asia, je ne vais pas tous les citer, mais on sent qu'il y a une envie aussi de marquer une présence avec cette génération. Oui.
Tout à fait, je pense que c'est une bonne initiative parce que le R&B à l'époque tel qu'on l'avait connu dans les années 2000, je pense que le boulot n'a pas été fait complètement et correctement à un point aujourd'hui que de revenir sur cette espèce de nostalgie et de justement avoir cette opportunité de cristalliser cette époque et le son qu'on avait, puisque comme on en parlait en antenne juste avant, c'est ce qui nous caractérisait. Le son des années 2000, c'était quelque chose de vraiment particulier puisque nous, on a été élevés à la MPC 2000 qui était justement une machine, une boîte à rythme qui est très marquante justement que tous les producteurs tels que Timbaland, nos grands frères entre guillemets des États-Unis utilisaient pour donner ce son-là justement qui représente le son des années 2000. Donc se retrouver avec toute cette mouvance, cette vibe et les collègues de cette époque, c'est génial parce que c'est une deuxième chance aujourd'hui de venir parler de nous et de raconter notre histoire et de pouvoir enfin marquer une bonne fois pour toutes, de cristalliser avec cette couleur-là qu'on voulait imposer à l'époque.
Et que vous avez voulu effectivement décider et voir marquante. Il y avait une envie de votre génération, dans votre génération d'artistes, Willy, et ça a été votre cas, de proposer quelque chose de très positif. C'est vrai les années 80 ont été marquées inévitablement par ce son disco qui donnait envie de danser. Ensuite, il y a eu les années 90 avec un son qui était déjà un peu plus hip-hop, mais vraiment hip-hop de Sydney, avec des textes, des revendications, des choses à dire dans les quartiers. Et ce son des années 2000, qu'on a du mal finalement à déterminer, mais qui marque effectivement un côté positif.
Oui, il y a eu cette espèce d'incompréhension quand la R&B justement s'était arrivée. On se considérait vraiment comme une extension du hip-hop. Ça reste dans la famille du hip-hop, puisque moi, ma culture, elle est très hip-hop. Hein. J'écoutais le Wu-Tang, j'écoutais tout ce qui est Nas, tout ce qui est rap très américain. Et le R&B, on était très Usher, très, vous voyez, orienté dans ce truc-là, B2K, etc. Donc, c'était tout simplement une continuité. C'était cyclique aussi, il faut le dire.
Est-ce que c'est pas une génération qui était, pour le coup, décomplexée de ce son hip-hop et surtout décomplexée d'aller puiser du côté des États-Unis?
On n'avait pas honte de dire, voilà, on veut faire comme tel artiste. Aujourd'hui,
avec un sens de la scène aussi. Hein.
Oui, avec un sens de la scène. Et puis, avant d'être artiste, on est des grands rêveurs aussi, il faut le savoir. C'est qu'on rêvait tout simplement comme des ados qui regardaient tel artiste et qui se disaient « Ah ouais, un jour, je veux devenir comme lui ». Ça n'engage que moi, mais ce qui me concerne, c'était ça. Moi, j'étais fan de Boyz II Men. C'est-à-dire que le côté a cappella, harmonie, tout ce qui était riche en termes de black soul américaine, c'était vraiment ma tasse de thé. Donc ouais, je peux que acquiescer et kiffer ce moment pleinement, quoi.
En fait, il y a aussi un côté romantique dans toute cette histoire, j'ai l'impression, Willy.
Les grands romantiques.
On parle des Boyz II Men,
mais
c'était aussi...
Comme on en fait peu aujourd'hui. Ouais, non, c'est... Et le côté, justement, très positif, oui, parce qu'à l'époque, on avait des beaux textes. Il y avait du fond et de la forme, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la génération vit avec son temps. Mais bon, pour moi, je pense que ça s'est un peu dégradé, même si on vit avec son temps. Les discours ne sont plus les mêmes, on ne défend plus les mêmes valeurs. Je pense qu'on est dans une époque aujourd'hui, en plus, les valeurs, elles sont inversées. Donc, ouais, nous, on vient représenter cette génération des 30-40-naires pour rappeler que l'amour existe toujours. Et puis, ça fait du bien. Et puis, je pense que la clé de tout, en vérité, ouais, c'est l'amour, en vrai.
Vous êtes né à Melun.
Ouais, votre 77, Lemay-sur-Seine.
Vous avez grandi à Lemay-sur-Seine. Vous êtes né William
Tongramasi.
Voilà. Pourquoi Willy Denze, alors?
Lemay-sur-Seine, c'est un petit peu un quartier, je ne vais pas dire une cité et tout, mais c'était un petit peu un quartier où on se donnait des surnoms avec les copains. Et puis, Willy, le diminutif de William. Et puis, Denze, un jour, on m'a appelé Denze, donc ça m'est resté. Willy Denze, je l'ai composé. Et puis, en nom d'artiste, au fur et à mesure de mes castings, de mes rendez-vous et tout, quand je leur disais que je m'appelais Willy Denze, ça claquait. Donc, je me suis dit, bon, je vais le garder. C'était sympa.
C'est vrai que vous me parliez de ce qui se passait à la maison. Vous êtes d'origine, enfin vos parents étaient d'origine laotienne.
Exactement.
C'est évidemment cette génération.
Ouais, réfugiés politiques, les boat people et tout, etc. Donc c'est
qui a vraiment vécu des moments très très durs, très très forts. Comment elle est arrivée cette musique à la maison alors?
Mon père chantait. Je m'en rendais pas compte. J'ai eu un tilt vraiment plus tard. Lui, il chantait des musiques traditionnelles du Laos. Et en fait, au début, quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être 6-7 ans ou même encore plus jeune, hein, je me souvenais, par exemple, j'ai un flash là où je dormais sur les genoux de ma mère. Et puis devant, quand j'ouvrais mes yeux, je regardais mon père de dos en train de chanter. Et lui, il faisait ça dans des familles où il se réunissait pour gagner sa vie. Et en fait, c'était un truc que j'avais pas trop associé à la musique que je faisais. Et puis avec le temps, je me suis dit, mais en fait, quand me posait toujours cette question, est-ce que il y a des gens dans ta famille qui chantent? Je disais non, mais en fait oui, mon père chantait en fait. Et c'est ce truc là je pense qui m'a nourri inconsciemment et qui m'a donné envie de prendre le flambeau à mon tour, quoi.
À quel âge vous avez découvert votre voix alors, Willy?
Tard.
À quel âge vous avez compris que vous étiez une voix, que vous alliez être une voix qui allait compter?
À 14 ans, je pense que c'était un moyen de séduction pour les filles à l'époque, hein. C'était un petit peu le truc où on se cherchait avec les copains. On prenait le RERD et on faisait Lemay-Paris toute la journée et on chantait dans les trains, justement du Boyz II Men a cappella, parce que comme on n'avait pas les moyens d'avoir des instruments, on s'est dit nos voix ça allait être nos instruments. Et puis jusqu'au jour après qu'on rencontre des producteurs, des compositeurs et tout, etc. Mais avant tout ça, ça a été une bonne époque de 2-3 ans à chanter dans les trains. Et je pense que le RERD s'en souvient et que tous les passagers aussi, parce qu'on leur cassait la tête avec du Boyz II Men aller-retour. Mais bon, c'était très cool.
Je voudrais qu'on parle de votre premier projecteur. Le premier coup de projecteur sur vous, c'est une émission, c'est Graines de Star. Je voudrais que vous me parliez de cette émission, de ce qu'elle a changé dans votre vie.
En toute honnêteté, pour être transparent aujourd'hui, c'est Graines de Star. En fait, j'étais moi déjà produit par une boîte de prod qui s'appelait EMC Records, dans lesquelles, dans ces locaux-là, se passaient les castings de Graines de Star. On m'avait proposé plusieurs fois de le faire. J'avais refusé parce que j'avais honte et que j'étais pas prêt. Ça relevait plus de la timidité. Et une fois avoir accepté de le faire, j'y ai participé. J'en garde un très, très bon souvenir. J'ai perdu d'ailleurs, mais...
T'es arrivé jusqu'en
au
finale.
Au change,
hein,
ouais, je suis arrivé jusqu'en finale. Au change, j'ai gagné une carrière. Ouais, ça a été très vite. Après, tout s'est passé très, très vite. Et c'est des vrais souvenirs. Graines de Star, c'était l'époque de Laurent Boyer, Thierry Ardisson. Une pensée aussi pour Nike, qui est devenu mon manager, qui était l'un de leurs associés au début. Et puis voilà, c'était très, très cool.
Je me suis posé la question d'ailleurs, Willy, si ce n'avait pas été trop vite, à partir du moment où effectivement le succès est arrivé et où vous avez été sous le feu des projecteurs.
C'est un peu des deux, puisque l'attente, elle est longue. Et quand ça arrive, ça va vite. Donc il y avait ce truc-là où, non, je pense que j'étais déjà... Bon, après, j'avais 20 ans, on était jeunes, on était fous. S'il y avait des choses à refaire, je le referais pas, je laisserais tout comme c'est. Et puis c'est ce qui fait l'authenticité de mon histoire aussi, dans le fond. Sans me jeter des fleurs, mais c'est... Il y a eu beaucoup de galères, il y a eu beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments entourés, et au final, ça m'a appris à vivre seul. C'est bizarre de dire ça, non ?
C'est fort.
Ouais.
Quels ont été les moments les plus difficiles alors, que vous avez dû affronter ?
Les faux amis. Tu te rends pas compte, tu rentres dans un monde où t'as l'impression que tout le monde t'aime, tout le monde est gentil, et ils le sont sur le moment. Et tu peux pas leur en vouloir parce que l'être humain, il est fait comme ça. Et qu'à un moment donné, quand la lumière, elle se tamise et elle s'éteint doucement, tu te retrouves seul et tu communiques avec toi-même. Et c'est là que tu apprends à grandir et à te refaire le film des milliers de fois dans ta tête et te dire, OK, là, je pense que c'est le moment de grandir réellement. Parce que quand tu es dans un espèce de cocon et que tu es couconné et que tu as une équipe de 50 personnes autour de toi, parce qu'il fallait savoir que tu as les amis et tu as l'équipe de la maison de disques. Donc, tu te rends compte que tu es aussi une machine à nourrir tout le monde en même temps. Et tu portes sur tes épaules ce poids-là de responsabilité que tu ne devrais pas avoir, alors que tu es là, en vérité, tu as 20 ans. Tu es juste là pour kiffer et tu apprends sur le terrain. Donc, il y a tout ça à assimiler. Et au début, oui, ça n'a pas été facile. Je pense que j'en ai un petit peu souffert, mais au final, je pense que j'avais besoin de ça pour devenir ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc, je suis fier de moi. Je suis là, quoi.
L'apogée, c'est le mur du son.
Ouais.
Ce titre, tout le monde le chante encore aujourd'hui.
Incroyable.
Après une ride, ce qui est assez incroyable, d'ailleurs, effectivement. Elle représente quoi, cette chanson, pour vous? Et elle est née comment, cette chanson?
Le mur du son, c'est un paradoxe, parce que ça m'a permis de franchir un vrai cap. En 2-3 flashs, je chantais dans une salle de 50 personnes, et 3 jours après, c'était 40 000 personnes qui reprennent ton son à tue-tête. Et là, tu te manges un mur, justement, deux voix qui reprennent ton hit, ton vrai premier hit. Et là, oui, franchement, ça fait quelque chose. Et là, tu te rends compte que ta vie, elle a changé. Parce que à l'époque, bah, tu vois, il n'y avait pas les réseaux. Et quand tu sortais, le kiff, c'était d'aller dans n'importe quel endroit de France. Tu te rends compte que bah, des gens, ils t'appelaient par ton prénom et tu te sentais partout chez toi à la fois. Donc c'était un truc complètement fou, mais c'était très cool. Et puis au niveau du son, ouais, bah Wayne Beckford. Et l'anecdote dessus, c'est que ce son-là particulièrement, à l'époque, moi j'étais le genre de mec où que j'allais chercher à la Fnac les exports qui venaient d'ailleurs pour pas écouter les mêmes choses que les autres. Wayne Beckford, justement, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Nine Yards. Et un jour, je me retrouve avec Sony Music, bah parce que Wayne Beckford, il proposait des prods pour Diams, Ophélie Winter, chez Sony Small à l'époque.
Diams qui vous a soutenu d'ailleurs.
Exactement, Diams, incroyable artiste. Et donc du coup, il s'avère que ce mec-là, il faisait partie de ce groupe-là, Nine Yards. Quand je me suis retrouvé autour de lui, je me dis, mais toi, je te connais. J'ai dit, tu faisais pas partie de ce groupe-là. Et comme ce groupe-là, il n'était pas connu, bah lui, il a halluciné. Et puis l'histoire a fait que la boucle était bouclée, quoi. Le mur du son et puis... le succès qu'a suivi et toute l'histoire que tout le monde connaît aujourd'hui.
Disque d'or.
Voilà.
On parle de vos soutiens, ouais. La Fouine, Diams.
La Fouine, Diams. Bah, La Fouine qui est revenue aujourd'hui au top du top et que, bon, on n'a pas eu le temps de communiquer et tout, mais je suis très, très, très content de lui parce qu'il revient de très loin aussi. Bon, après, bon, j'ai un petit pincement au cœur pour Diams. Bon, après, c'est son choix, mais j'aurais aimé qu'il revienne dans le rap, clairement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui la détrône au niveau de sa plume, au niveau de son flow. C'est une grande dame qui a marqué l'industrie et la culture. Donc, pour la culture, ça serait bien qu'elle revienne quand même.
Ensuite, il y a eu effectivement L'Orphelin.
Ouais.
Ça a été une chanson aussi qui a marqué les esprits, qui était dans un tout autre registre. Il y a toujours eu ce besoin, j'ai l'impression, d'en découdre avec des histoires compliquées, de les emmener vers du positif.
L'Orphelin, à la base, quand je l'écris, il faut vraiment savoir que c'est quelque chose qui m'est sorti vraiment... D'habitude, je mets une journée pour écrire un son. L'Orphelin, je l'ai écrit en une heure. Et c'était pour dans le cadre d'un projet d'une compil qui s'appelle R&B Fever. Aujourd'hui, bah, L'Orphelin, ce que je dis toujours, c'est que tristement, aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Moi, je suis quelqu'un qui est pour l'injustice. Je suis pas... Je le dis tout le temps. J'ai des amis, par exemple, juifs. J'ai des amis musulmans. Je fais pas la différence de tout ça, mais je suis quelqu'un de juste quand même. Je trouve qu'il y a quand même une injustice au niveau de ça, qu'il faut démystifier, qu'il faut arrêter de se cacher derrière ça. Et puis L'Orphelin... C'est quelque chose, en vérité, c'est pour les orphelins. Quand, par exemple, on chante L'Orphelin aujourd'hui, on me dit, ouais, t'as choisi un camp, quoi. Non, moi, je chante pour les orphelins. Je pense aux enfants avant tout. C'est ça, le vrai message de L'Orphelin. Et quand les gens, ils veulent la reprendre pour, par exemple, soit défendre que la Palestine ou d'Israël, moi, c'est vraiment pour les enfants avant tout.
Quand on parle de vous, on pense aussi à cette reprise de Joe Dassin. Est-ce qu'il n'existait pas ? Cette chanson est sortie en 2005. C'est vrai que vous avez créé un effet de surprise assez fort auprès des personnes qui vous ont toujours suivi avec ce son R&B. C'était aussi une façon de montrer autre chose de vous ?
Bah, à l'époque, le R&B, c'était tout de suite catégorisé comme quelque chose de... T'es un chanteur d'R&B, tu chantes pour les femmes, et tout, etc. C'est trop sexy, c'est trop léché, trop américain. Et puis... Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les karaokés, je pouvais même chanter un géant de papier ou, tu vois, des titres où que les gens, ils s'imaginaient pas que je pouvais chanter. Donc, et si tu n'existais pas, oui, parce que c'est une très belle chanson. D'ailleurs, écrit et un gros bisou à Claude Lemel, qui est mon ami, qui a écrit cette chanson-là pour Joe et pour beaucoup d'autres artistes. Et si tu n'existais pas, pour moi, c'était une évidence de montrer à la France que le R&B, c'était pas juste ces codes-là. On pouvait aussi bien se mélanger sur la variété française. Et puis j'adore la variété française, en vrai. Voilà, c'est les gens qui nous mettent dans des cases. Mais en vrai, j'aime tout genre de musique. Même du Iron Maiden. J'écoutais tout à l'époque, moi.
Vous avez été très sollicité avec des collaborations. J'en parlais tout à l'heure. Ouais. Emery, il y avait aussi Cassidy. Il y a eu cet album avorté, finalement, Mon Royaume. Qu'est-ce qui fait qu'il ne sort pas, cet album, Willy ?
Bon, toute franchise aujourd'hui, hein, 20 ans plus tard, ça y est, il y a de prescription. C'était une embrouille de maison de disques, tout simplement. C'était la fusion entre Sony et BMG à l'époque. Il y a eu une restructuration, il y a eu une incompréhension, une latence au niveau, justement, des équipes qui devraient se remettre en place. Et on était malheureusement arrivés entre deux chaises, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'album n'a pas vu le jour, malheureusement, alors que c'était un très, très bel album, puisqu'il y a beaucoup de gens talentueux et internationaux et français qui ont bossé dessus. On y a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et bon, ça s'est pas fait. Ça fait partie de mon histoire parce que c'est faute à pas de chance, en vrai. Donc, voilà, s'il y a un nouvel album, ça va se passer autrement, c'est tout.
Vous n'avez jamais lâché la musique pour autant. Il y a eu, effectivement, en 2007, la chanson du film High School Musical 2, Double Mise. Il y a eu, effectivement, le Prodigy Crew aussi. Vous avez créé le votre Prodigy propre Crew, groupe. Ouais. Il y a eu cette collaboration avec Clara Morgan. Puis, vous avez approché le cinéma. La musique, on a le sentiment que c'est sans doute comme une personne qui vous a toujours le plus accompagné, qui vous a toujours le plus compris.
En fait, ça a été un exutoire, oui, pour parler de ça. Et en fait, là, même en discussion avec mon équipe en ce moment, comme il se passe plein de choses d'actualité, on part sur un nouvel album. Quand j'en discutais avec eux dans la voiture, je leur disais, en fait, ma vie, c'est un grand bordel. Je pense que je vais pas avoir vraiment de vrai DA. Et je pense que ça va être le reflet, par exemple, sur mes featurings ou mes morceaux. Ça va être le reflet de ma vie, quoi. Un grand bordel. Donc, en fait, pour résumer tout ça, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Comment j'ai pu bosser avec des gens, telle personne ou telle personne. Ça arrivait sur le moment. L'opportunité s'est présentée. J'ai trouvé ça cool. Je l'ai saisi sur le moment. Et j'en garde de très bons souvenirs. Tout comme à un moment donné de ma vie, on m'a dit « Viens, tu veux faire une telle réalité ?» J'ai dit « Ouais, vas-y, pourquoi pas ?» Alors que dans le métier, on dit « Ouais, quand tu fais ça, t'es grillé et tout. » Moi, je m'en fous, moi, en fait. Je vis des choses et je les contrôle pas. Et on sait pas, nous-mêmes, personne ne sait de quoi sera fait demain. Donc, si ça se passe bien, tant mieux. Et donc, voilà, c'est tout ça, en gros.
Ce que met en avant le R&B Legacy, ce grand concert live, justement, qui aura lieu le 20 mars prochain, c'est le fait que vont être réunis sur une seule et même scène toute cette génération qui, on a le sentiment, n'a pas perdu ses yeux d'enfant, ni cette envie d'en découdre avec la vie d'une façon très positive.
Déjà, nous-mêmes, quand on se retrouve tous en off, faut savoir qu'on est des grands enfants. Quand je les vois, même si tout le monde a pris de l'âge, etc., on reste de grands ados, on est toujours sur les mêmes blagues. Et surtout, ce plateau-là, il est hyper important parce que c'est un plateau qui met en l'honneur le R&B et où on n'a pas eu l'habitude, nous, d'avoir nos propres plateaux à nous, que ce soit toute génération confondue. Donc, ça va être un grand spectacle incroyable.
3 heures à annoncer, d'ailleurs.
Ça sera incroyable. Je pense qu'on fait à peu près 10 minutes, 12 minutes chacun, donc on va tous s'enchaîner. Et puis, ça sera un très beau show, parce que j'ai vu comment ils travaillent de l'autre côté, la scénographie, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place et toute l'énergie qu'ils mettent dedans. De gros big up à Mike et toute son équipe et tout. Franchement, ils font le boulot pour le R&B au service de l'art. Donc, ça peut que être quelque chose qui va être impactant pour notre culture à nous cette fois-ci. Pas hip-hop, mais vraiment R&B.
Le R&B, est-ce que c'est pas un art de vivre, Willy Denzey? Une façon de regarder la vie?
Ouais, tout simplement.
Du bon côté.
Vous avez tout à fait raison. Justement, nous, on a un projet justement qui s'appelle aussi R&B. Bah, on l'écrit A-R-T-N-B. Donc, pour ça signifie l'art d'être. Donc, l'art de vivre, l'art d'être soi-même. C'est un lifestyle, en vrai. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, les gens, dans les codes. Il faut que les gens comprennent bien que nous, quand on s'habillait en baggy, on s'habillait en large et tout, etc., ce qui est revenu à la mode aujourd'hui, c'était vraiment un code, un lifestyle. Donc, c'est ce qu'on aime. Moi, j'étais pas à l'aise avec les jeans trop serrés. C'était problématique. Donc, ouais, j'étais plus à l'aise. Voilà, c'est des codes.
Voilà, la vie, donc, extra large. Merci beaucoup, Willy Denzey, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info.
Merci.
Je le rappelle, c'est le 20 mars prochain, ce concert R&B Legacy avec 30 artistes sur scène.
Et
effectivement, on va réviser non seulement nos classiques, mais surtout, il y aura beaucoup d'ambiance. Donc, préparez-vous
à
chanter. Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Écoutez du bon. Vas-y, monte le son. Ne fais pas d'illusions. Mets-toi en condition. Qu'est-ce que tu attends? Ne perds pas de temps. Lève-toi, lâche-toi maintenant. Faut que ça bounce. Cassons le mur du son. Sans poser de questions. Guidé comme un aimant. Lève-toi, je viens doucement. Passez le mur du son. Oh, oh, oh. Ça le fait, ça t'est destiné. Je vois mon reflet en toi se poser. Commence. Faut que ça danse. Lève-toi, lâche-toi maintenant. Faut que ça bounce. Casse le mur du son. Sans poser de questions. Comme un aimant, lève-toi, je viens doucement. Passer le mur du son, son, le signe de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction. Tu ressens l'amour, mon effet, je ne vais pas en priver. Je vais pouvoir t'en donner encore, et à mort. Tu peux m'en redemander, ça. Casse le mur du son, sans poser de questions.